Recto, verso. Vanessa Longepierre.
Mercredi 16 décembre. Le rendez-vous est donné dans son atelier à Charpais. Silence apaisant. Seul le mécanisme de l'horloge semble donner le temps, qui ici n'a plus aucune importance. Stéphane Landois, typographe et éditeur drômois, m'accueille dans son atelier du hanneton. Petit écrin de poésie posé au milieu des champs, l'atelier de Stéphane me donne l'espoir que construire sa vie à son image est encore possible. Artisan-composeur aux allures révolutionnaires, Stéphane tient le plus grand des respects au caractère, à la matière et bien sûr à la poésie et à ceux qui la composent.
Recto verso.
Installez-vous confortablement, nous partons en confidence. L'équipage vous souhaite un beau voyage.
Down the street the dogs are barking and the day is getting dark. As the night comes in a falling, the dogs lose their bark. And the silent night will shatter from the sounds inside my mind. Isn't one too many mornings and a thousand miles behind. From the crossroads of my doorstep, my eyes start to fade. And I turn my head back to the room where my love and I have laid. And I gaze back to the street, the sidewalk, and the sign. And I'm one too many mornings and a thousand miles behind. Is a restless, hungry feeling that don't mean no one no good. When everything I'm a saying, you can say it just as good. You're right from your side, and I am right from mine. We're both just one too many mornings and a thousand miles behind.
Dylan, c'est mes 18 ans, j'écoutais ça, soi-disant que je révisais pour mon bac l'anglais, mais en fait j'écoutais Bob Dylan, je comprenais rien du tout, mais ça me plaisait, je partais. J'ai toujours joué un peu d'harmonica, donc c'est aussi quelqu'un qui, voilà, qui m'inspirait, et puis, sans comprendre le texte en anglais, c'est quand même un langage proche de la poésie. C'est un chanteur qui il a été prix Nobel de littérature, c'est pas pour rien. Donc voilà, c'est quelqu'un qui m'a accompagné, qui m'accompagne toujours à l'atelier. Il y a toujours un Dylan pas très loin, quoi. Je me suis mis à écrire de la poésie, et puis avec deux copains, là, à Valence, on voulait révolutionner l'écriture poétique. Donc on avait fait une petite plaquette, on est allé imprimer cette petite plaquette chez un petit éditeur. Et moi, quand je suis rentré dans son atelier, j'ai dit waouh. Donc un atelier d'artisan, typographe, éditeur. J'ai dit ouais, c'est ça que je veux faire moi. Donc ça a été le déclic, vraiment quand je suis rentré dans l'atelier, quoi. Vraiment les odeurs, l'ambiance, ce type qui se démenait pour faire vivre cet atelier. Et j'ai dit, moi, ça y est, c'est décidé, je vais faire ça. Bah, le gars qui nous avait accueillis, cet éditeur, là, il a téléphoné un jour et il dit, ben voilà, j'ai une machine. Il avait bien vu que ça avait tilté. Donc j'ai téléphoné copain et on est allé récupérer la première machine de l'atelier. Je ne savais même pas la mettre en route. Je ne savais pas ce que j'allais en faire. On a mis quand même 4 heures pour la charger dans le camion. Enfin, c'était une expédition. Et je l'ai stocké à un endroit, voilà. Et puis le projet a mûri, je me suis formé, j'ai fait un stage ou deux de typographie. Et puis un jour, j'ai dit, j'ai créé mon atelier, une maison d'édition de poésie. Mais je ne connaissais rien au métier d'éditeur. Ça s'est fait, en fait, dans l'insouciance totale. J'ai dit, je monte une maison d'édition, mais je ne savais pas ce que c'était que... Ma grande surprise, c'est qu'il y a des textes qui sont arrivés. Et des textes sont arrivés, donc là, le travail d'un éditeur, c'est de faire des choix. Ouais, pourquoi on édite ce premier texte? Donc ça, moi, je découvrais tout ça. C'était... le premier auteur, c'est comme la première histoire d'amour. C'était Claude Brunet, le livre s'appelait « Journal du dedans ». Claude, c'est quelqu'un qui n'était pas forcément du monde littéraire, mais qui écrivait des petites notes, son journal, comme ça. Et moi, ça m'avait beaucoup plu, cette écriture simple, mais en même temps, j'y décelais quelque chose d'un peu... Il avait sa patte à lui, son côté, son écriture un peu bancale, un peu... Ça m'a plu tout de suite. Donc ça a été le premier livre, Journal du dedans, on l'avait tiré à 200 exemplaires, je crois. C'était le début de tout. Et tout de suite, j'ai senti que c'était important, la rencontre avec l'auteur. C'est pas qu'un texte, il y a aussi la rencontre humaine avec la personne qui a écrit ce texte. C'est pas obligatoire, mais c'est... Je peux pas envisager de faire un livre avec quelqu'un que j'aimerais pas. De mes parents, j'ai eu une grande chance, c'est-à-dire qu'ils avaient une ouverture d'esprit et si je cherchais un poète particulier, il suffisait que j'aille dans la bibliothèque de la maison et ils me disaient « Ah oui, je dois avoir tel ouvrage et tout ». Donc ça, c'est un appui. Ça a plutôt été un appui qu'un frein. Donc je les en remercie. Il y a quand même aussi un truc qu'il faut dire, c'est que mon père avait un atelier de céramiste. Moi, la terre, j'ai une femme céramiste, j'avais un père céramiste, mais je ne sais pas trop quoi faire avec cette matière terre. Par contre, l'idée d'atelier, ça a été clair en moi, c'est que j'ai dit, moi, je veux un atelier. Que ce soit un atelier de ferronnerie ou n'importe quoi, mais cette idée d'atelier, je trouvais ça, j'aimais bien l'ambiance de cet atelier. Et le coup de cœur pour l'atelier de typographie, ça répond aussi à ça. Dès le début, j'avais appelé, il fallait choisir un nom d'éditeur. Donc j'avais choisi Atelier du Hanneton. Parce que il y avait la dimension de l'atelier, ça j'en ai parlé. Et puis le Hanneton, c'est dans l'argot des typographes. Les typographes, ils ont un langage particulier. Avoir un ton dans la tête, c'est avoir des idées un peu farfelues, un peu saugrenues. Donc je trouvais que monter une maison d'édition de poésie sans être professeur de lettres, sans être imprimeur de métier, tout ça, c'était un petit peu farfelu. Et c'était quand même un clin d'œil au métier des typographes, cet argot qui est important. Parce que ça m'a accompagné tout. Moi, si j'ai aussi peut-être choisi ce métier de typographe, c'est parce qu'on lit à l'envers. Ça me plaisait bien. On lit pas comme les autres, on lit à l'envers. Et on compte pas comme les autres, on a aussi une mesure qui est propre au métier de typographe. On compte pas en centimètres, on compte en cicéro, en point d'ido. Enfin. Donc ça, c'était deux aspects qui me plaisaient bien. Puis le troisième, c'est qu'on pouvait... Il y avait le côté manuel. On mélange le côté intellectuel et le côté manuel. Et ça me plaisait beaucoup. Et ça me plaît toujours. Et après, des moments de découragement, il y a pu en avoir, il y en aura peut-être d'autres, mais les moments de joie sont plus importants que les moments de découragement, donc on repart. Mais c'est arrivé, il y a une fois, j'ai téléphoné un copain poète, je lui ai dit, écoute, j'en ai marre de faire mes petits livres, là. Ouais, il me dit, ok. Je lui dis, je sais faire, c'est bon, j'ai l'impression de plus avancer. Et tout. Il me dit, t'en as marre de faire tes petits livres? Ben, on va faire un grand livre. Donc on a fait un grand livre et on s'est balancé pendant 6 mois, on a travaillé sur ce grand livre. Et ça donne un... Tac, ça donne un autre élan, ça permet de rebondir, de... Et puis on repart. J'aime le côté, la dimension du temps dans l'atelier, elle est importante, c'est vrai. C'est-à-dire que, bah oui, on compose un texte, on met la journée des fois pour composer ce texte, bah on va se coucher, le soir, on va dormir, on revient le lendemain matin, on dit, ah zut, ça aurait été peut-être mieux ce passage-là en italique. Donc il faut tout recommencer, tout redéfaire, tout recommencer, tout. Bien sûr, avec un ordinateur d'un clic, on change. Là, ce n'est pas le cas. Et cette lenteur, eh bien, elle est intéressante. Sûrement pas économiquement, mais au niveau fabrication, elle amène quelque chose. Elle amène bon, un mûrissement, quelque chose comme ça. L'outil nous oblige, l'outil typographique nous oblige à cette lenteur, et cette lenteur-là, ben, elle est assumée. De toute façon, je ne peux pas faire autrement. Et moi, elle me plaît. Elle me plaît, et je passe aussi des heures à coudre mes livres. Je m'installe là, près du poêle, et puis je couds. Puisque les livres, ils sont cousus à la main. Alors, c'est un côté besogneux, hein, coudre 500 livres avec 5 cahiers par livre, ça vous fait 2500 de couture et tout. Mais bah là, la musique est capitale. Je passe de la musique, je m'écoute la radio, voilà, et pendant ce temps-là, l'esprit vagabonde. Ces tâches un peu répétitives, c'est sûr. Mais moi, ça ne me dérange pas. C'est pas ça qui me... Je trouve que ça fait partie de ce métier-là. Pendant la dernière période, là, j'ai beaucoup écouté la radio, les nouvelles sur le monde qui allait pas très bien et tout. Et puis en cherchant, j'ai trouvé une citation que j'avais envie Donc j'ai mis un temps fou à la composer. C'était des caractères en bois qu'il fallait caler, différentes hauteurs. Et tout ce temps de composition était assez long. Après, il a fallu faire le tirage et tout ça. Mais quand le tirage était en route, cette citation, elle me faisait un bien fou, quoi. Donc il y en avait de partout dans l'atelier, j'étalais ça.
Et c'était quoi cette citation ?
Cette citation, c'est « Rien n'est plus contagieux que la liberté » de Christian Bobin. On fait aussi ce métier pour dire des choses. Il y a une grosse tradition dans le métier de typographe. Il y avait beaucoup de typographes qui étaient politiquement engagés parce que c'était les ouvriers qui savaient lire, c'est ça l'explication. Donc, sachant lire, ils voyaient passer des infos. Prenait position et tout, et donc ça c'est resté dans la tradition et moi du métier, et moi j'ai envie de, ça me parle quoi. Il y a aussi tout cet imaginaire autour de ce métier des imprimeurs, des imprimeries clandestines pendant la guerre, enfin il y a tout ça qui moi m'ont séduit dans l'histoire de ce métier. Un gars comme Vercors, son premier livre a été édité pour la création des éditions de Minuit pendant la guerre. C'était fabriqué sur des vieilles machines. On n'imagine pas la difficulté pour. Mais ça compte. C'était quand même des intellectuels qui voulaient donner une autre parole que la parole officielle de la propagande de la collaboration. Voilà, et il y a des imprimeurs qui ont pris des risques, qui ont été fusillés pour défendre cette parole-là. Voilà, donc c'est éditer, pour moi, éditer de la poésie, c'est déjà presque un geste politique, parce qu'on est hors marché, on est hors temps, parce qu'on publie des choses qui peuvent être lues dans 25 ans, toujours la même force. On le fait avec des outils qui sont hors d'époque, mais qui fonctionnent quand même. Il y a des grandes modes en ce moment, il faut ralentir. Moi, je n'ai pas besoin de ralentir, je suis déjà maximum de la vitesse réduite.
I'm not afraid to die.
Ben, Jumpin' Jack Flash, pour moi, c'est donc c'est forcément un morceau que j'écoutais jeune, à fond la caisse. C'est usant d'être typographe. C'est physiquement, on est tout le temps debout, on porte du poids, on manie du plomb. Donc c'est un métier physique quand même. Hein. C'est pas qu'une démarche intellectuelle. Il y a vraiment le côté physique. Donc on s'use. Au bout de 25 ans de ce métier. Et pour moi, Jumpin' Jack Flash, ça veut dire, oh, je suis encore à la pêche, moi, je suis encore capable de me mettre en colère ou de. Voilà. Et c'est ça, l'énergie du rock, quoi, c'est ça. Donc c'est surtout pour cette raison que je suis toujours sensible à ce morceau. J'ai même lancé une collection. J'ai demandé à des auteurs d'écrire, je leur ai dit Jumpin' Jack Flash, c'est ce que ça vous inspire et tout. Des poètes, bien sûr, que je connaissais. Aucune réponse. Aucune réponse. Mais ça rebondit quand même, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a écrit sur Bob Dylan. Donc ça retombe je dis Bob Dylan, ouais. Qui a écrit un texte poétique sur Bob Dylan. Et là, je suis en train de lancer la collection. Donc, il y a quelqu'un qui écrit sur Leonard Cohen, sur Bruce Springsteen, sur Tom Waits, sur Lou Reed, David Bowie, Iggy Pop, Patti Smith. Et puis, c'est parti. Et là, je lance une collection avec cette correspondance entre un poète et un artiste du monde de la musique. Il y a un terme qui existe, qui a été inventé par Jérôme Peignot, il appelle ça la typoésie. Donc ça mélange typographie et poésie. Et ça, c'est très présent dans ma démarche, c'est-à-dire que je ne suis pas juste fabricant de livres. J'essaye de mélanger cette création avec des caractères et l'écriture des auteurs. Moi, mon grand plaisir de fabricant-éditeur, c'est d'inventer l'objet livre avec ce texte que je reçois, qui me plaît. J'essaye d'imaginer quel objet ça pourrait donner. Alors, c'est un choix de format, choix de caractère, choix de papier, choix de couture, enfin il y a plein de choses possibles, mais c'est avec mes outils d'atelier, c'est d'essayer de porter ce texte. Donc ça donne à chaque fois un livre différent, quoi. Quand on fait un livre avec un poète, enfin moi quand je fais un livre avec un poète, on partage un bout de chemin ensemble. C'est pas simplement voilà le texte, hein, qu'on fait un livre et puis terminé. Parce que ce livre, il faut l'accompagner, il faut faire des lectures, participer à des salons. Et... Donc il y a certains poètes avec qui, effectivement, il y a une affinité pour X raisons. Tout à l'heure, je parlais de ce copain qui me dit « on va faire un grand livre ». C'est Arnaud Savoie. Arnaud, j'ai fait mon deuxième livre avec lui. On a à peu près le même âge. Du coup, on a partagé des trucs formidables, des galères aussi, mais c'est ce qui nous a construit une amitié, quoi. Moi, il m'avait impressionné, la première rencontre avec lui, il était jeune poète, moi, jeune éditeur. On se rencontre dans un café et on présente ses textes. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce personnage, quoi ? Avec une masse de textes colossale, quoi. C'était quelqu'un qui dans vraiment l'écriture pour lui c'était capital et ça l'est toujours. Donc voilà, c'est quelqu'un qui fait partie de l'aventure de l'atelier, il m'a accompagné tout le long et ça continue, quoi. Ça ça m'est arrivé même d'éditer des textes où je comprenais pas tout. Il faut accepter ça. On pense, alors en tant qu'éditeur, on pense que c'est une écriture intéressante, pour X raisons, parce qu'il y a un gros travail sur le langage, parce qu'il y a un travail de rythme, parce que... Après, qu'est-ce que le poète a voulu dire ? Certains textes restent très énigmatiques. Mais on peut être séduit par un ciel en regardant les nuages sans savoir vraiment la composition des nuages, comment se forme un nuage et tout. On n'a pas d'explication. Enfin, moi, j'ai pas d'explication scientifique et pourtant, je trouve ces nuages magnifiques. Ben, pour un poème, ça peut aussi être une clé d'entrée dans un texte. Je suis toujours rentré dans les textes avec cette clé du métier de typographe. C'est-à-dire, si le texte me plaît, mais que je n'arrive pas à trouver un habillage à ce texte, le livre se fera pas tout de suite. Et se fera peut-être pas du tout. Moi, j'ai toujours pensé que le typographe, il était au service du texte. Je suis là pour porter ce texte avec mes outils d'impression, mes outils de création. Je ne suis pas là non plus pour partir dans des délires typographiques avec des lettres dans tous les sens au détriment de la lecture du texte. Donc ça, c'est aussi un truc auquel je tiens, c'est-à-dire que je suis là voilà, pour le texte. Ce texte m'a touché, j'ai envie de le faire partager. Je construis un livre, mais en gardant cette priorité du texte. Dans le milieu poétique, puisque j'édite de la poésie, dans le milieu poétique, c'est souvent très intellectuel. Et moi, je ne me sens pas de cette approche-là. Je suis rentré par la fenêtre, je suis rentré par la typographie, je suis rentré par le rock, et j'ai toujours besoin de l'affirmer de temps en temps, de dire oh ouais, moi j'ai pas. Scolarité peut-être difficile, mais voilà, j'ai fait mon parcours peut-être plus grâce aux Stones que grâce à Baudelaire, quoi.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique. Voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes. J'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait prier. J'étais gant de crin, Gisèle. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Où subsiste encore ton écho? Où subsiste encore ton écho? J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Presseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine.
à lui je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore.
Ben oui, parce que je trouve que c'est un des rares chanteurs français qui arrive à faire de la poésie. Alors c'est toujours un peu proche du rock, mais de la poésie en français, et qui, moi, il me fait partir, ça fonctionne à chaque fois. Il me touche beaucoup, et ce morceau notamment... ça me touche, je mets ça, je peux le mettre en boucle, je peux le mettre 10 fois de suite dans l'atelier et il me touche toujours. Je reviens à l'atelier du hanneton. Un jour, je bricolais dans mon atelier, là j'entendais une émission sur les insectes. Et donc, ils se mettent à parler du hanneton. Alors, j'écoute un peu plus sérieusement. Hein, et ils disent le hanneton. Donc, c'était vraiment une conversation sérieuse. Ils disent le hanneton, physiologiquement, il a les ailes trop petites, il ne pourrait pas voler. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, ça pourrait pas faire, il pourrait pas voler. Et puis le scientifique rajoute, mais comme il le sait pas, il vole. Donc j'ai dit, mais ça correspond tout à fait à l'atelier. C'est-à-dire que je n'ai pas appris la typographie, je me suis fait les dents tout seul. La poésie, on peut dire pareil, en autodidacte et tout. Je ne savais pas ce que c'était le métier d'éditeur. Hein. Et puis au bout de 25 ans, ça vole toujours. Quoi. Il y a plein de gens qui, un peu anciens, qui me racontent que ils ont appris à écrire à l'école avec des encriers, à la plume. Et il y avait des hannetons qu'ils accrochaient avec un petit fil, ils les trempaient dans l'encrier, c'était un supplice quoi. Et ils faisaient voler ce hanneton plein d'encre, et donc ça mettait d'encre, le hanneton se tapait dans les cahiers, un peu partout. Donc, ça correspond aussi bien à l'atelier du hanneton. Il y a de l'encre, de temps en temps on en met un peu partout. Non, c'est marrant les correspondances comme ça. suis en train d'écrire à toutes mes machines, là, des lettres à toutes mes machines. Parce que ma machine, ça fait 25 ans que je bosse avec elle. Voilà, c'est les complices. C'est... Donc j'écris à toutes mes machines. Alors il y a Madame Lino, c'est la linotype. Puis il y a Mademoiselle Gestetner, c'est la 9-7. Et Dame Presto, c'est lequel j'imprime les livres. Il y a La Fag, c'est lequel je passe les couvertures. Et puis, j'élargis un peu parce que j'ai un copain poète, il me dit c'est bien, mais maintenant que tu as tiré le fil, il faut continuer à écrire. Il me dit tu écris sur tout l'atelier, tout l'univers de l'atelier. Donc j'ai écrit sur la valise que j'ai récupérée de mon grand-père, j'ai écrit. Qui m'accompagne sur tous les marchés. Et puis là, j'écris sur les croyances. Parce que pourquoi ? Alors moi, je suis un athée inconscient. pourquoi un jour, je mets la machine en route, tout fonctionne, pourquoi l'après-midi, je reviens, ça déconne ? Et je me mets à regarder le ciel, et je me mets peut-être à écouter un morceau de musique, tac, je repars, ça fonctionne. J'ai des croyances complètement irrationnelles, mais c'est mon rapport avec les machines. Voilà, je dis, ouais, elles fonctionnent parce que je lui ai fait écouter de la bonne musique, ou parce que, voilà, c'est... Alors, j'y crois qu'à moitié, mais ça alimente quand même le mon imaginaire et celui de l'atelier, quoi. Moi, je reste émerveillé, comme à 18 ans. Je mets la machine en route. Il y a de l'encre, donc c'est une sorte de pâte de couleur. Il y a de l'huile, il y a des rouleaux, il y a du papier blanc qui passe. Et ça ressort impeccable, imprimé impeccable. Et moi, je suis toujours émerveillé de voir que ça fonctionne toujours aussi bien, que c'est pas sale, que c'est pas... C'est un émerveillement de gamin, hein, mais ben ça rejoint tout ce qu'on a dit, la ténacité, le jumping jack flash. Pour garder tout ça, il faut pas lâcher le morceau, il faut constamment l'abnégation. Il y a des ateliers qui se montent. C'est de plus en plus difficile parce que il y a un problème de pièces, de machines, il y a un problème de savoir qui disparaît aussi. La linotype, j'ai mis 10 ans avant de la faire tourner. 10 ans à comprendre, alors quand je dis que je suis pas un rapide, ça se vérifie, mais à comprendre son fonctionnement. Sauf que la personne qui me l'a vendu, lui, il la connaît par cœur. Il a commencé à 14 ans dessus, il en a 80, il connaît cette machine par cœur. Jamais j'atteindrai ce savoir. Donc forcément, c'est un savoir qui disparaît. Après, il y a quand même un réseau de gens qui font ce métier-là, donc on se donne des coups de main, on se dépanne, voilà. Mais est-ce que ça va continuer, ça, je sais pas. Il y a toujours des gens qui écrivent de la poésie, qui en lisent, donc ça continuera, au niveau poésie, ça continuera. Si c'est pas en typographie, ce sera avec une autre technique, c'est pas grave. Le gros problème des petits éditeurs dans mon genre, c'est la diffusion des livres. C'est comment faire partir ces livres, faire commerce. Donc il y a les salons, il y a les marchés, les lectures. Et puis moi, étant à la campagne, j'ai un lieu disponible. Donc j'ai dit, je vais créer une librairie. Seulement au milieu des champs de tournesol et de maïs. Une librairie, c'est pas gagné, on n'a pas forcément... des clients tous les jours. Mais je dis, peu importe, le lieu est là, on va le créer et on va faire une librairie. Et ça fait plus de 15 ans qu'elle existe. Et à ma grande surprise, il y a beaucoup de livres qui partent grâce à ce lieu-là. Parce que bah, les gens qui sont passionnés, ils viennent acheter des livres de poésie ici. Alors, j'ajoute quand même que j'ai une femme céramiste. Donc, on présente aussi son travail. Et du coup, ça fait une clientèle plus large. Il y a des gens qui viennent pour la céramique et puis qui repartent avec un livre. Mais moi, ça me plaisait beaucoup d'ouvrir une librairie au milieu des champs, quoi. Et je pense même que c'est l'avenir. Il se trouve dans des lieux comme ça, dans des lieux hors circuit traditionnel du livre, hors les nouveaux outils numériques, parce que les gens, ils ont besoin de ça, de toucher ces livres, de les prendre, de les regarder. L'atelier est à côté, ils voient en plus comment ça se fabrique. Enfin, Donc ça fonctionne assez bien. Ces livres existent dans ce lieu, ils existent sur les marchés, les salons, ils existent dans quelques librairies. Mais moi, je ne sais pas me transformer en commercial. Je ne sais pas faire ça. Je suis assez maladroit. Donc du coup, il y a des fois, je dis, putain, mais ces livres, ils pourraient rayonner beaucoup plus, quoi. J'ai l'impression d'avoir trouvé mon fonctionnement dès le premier livre. C'est-à-dire qu'on a fait un livre, fabriqué à la maison, cousu à la main, 200 exemplaires, on fait savoir autour de nous que ce livre existe, on fait une lecture, paf, les 200 exemplaires sont partis assez rapidement. 25 ans après, bah, je fonctionne toujours pareil. Je fais un livre, j'aime bien que ce soit entièrement fabriqué dans l'atelier, cousu à la main, hop, on fait des lectures, et puis ça fonctionne. Alors il y a des fois, ça fonctionne plus ou moins bien, mais ça va, quoi. Le premier livre, l'auteur me téléphone le matin, il me dit « ça va, tout se passe bien ». Donc j'étais en train de fabriquer, et j'avais invité les gens à venir assister au tirage. Et il me téléphone le matin, tout va bien, oui, oui. Ça avance, le travail avance. Et il arrive à 2h, on devait lire quelques passages, Il me retrouve couché sous la machine en train de réparer un moteur qui avait lâché. Donc il était catastrophé, il me dit... Je dis non, mais t'inquiète pas. De toute façon, le livre, il sera pas terminé aujourd'hui. Les gens vont... Il y a déjà eu des tirages de faits, ils peuvent regarder et tout ça. C'est l'exemple type de ce qui est arrivé constamment dans l'atelier. C'est-à-dire qu'il faut constamment bricoler. Il y a des gens qui me disent « t'es éditeur, toi ». Je suis éditeur, je bricole dans l'édition. C'est pas péjoratif, c'est assumé, c'est... Mais c'est constamment qu'il est arrivé des petites choses comme ça. Et je crois que maintenant, je le prends avec... ça fait partie de l'histoire de l'atelier, quoi. Et ben, le grand plaisir d'organiser aussi des petits événements, ça c'est un truc auquel je tiens beaucoup. Des lectures, des concerts, des choses comme ça. Ça, c'est... j'adore ça, quoi, quand les copains arrivent et que ça joue et qu'il y a une création en cours et qu'il se passe quelque chose. Après, j'aime bien me retrouver tout seul à l'atelier aussi, mais j'aime bien quand il y a un peu d'effervescence et que... Il y a une émulation, forcément. A besoin de la beauté de la création. Des créateurs, des gens qui inventent, qui sont farfelus, on a besoin de ça. Alors je souhaite à tout le monde d'avoir ce plaisir de connaître la jouissance de la création, oui. En véritable peau de cochon, je te promène partout, comme un héritage vagabond. Couleur caramel, sucrée comme une friandise, une praline, un papyrus, charriant un saxophone ou des cartes postales du monde. La valise du papyrus, la valise parchemin, peau brunie, tannée par le soleil de juillet au milieu des framboisiers et les îlots de taches qui se taisent. La valise qui sifflote toute seule quand elle lume le parfum des départs. Mal aux épices, j'attrape ta poignée de cuir, embarque sur le premier paquebot à quai. Je te glisse dans le coffre de mes voitures poussives. Je t'arrime avec un élastique sur le porte-bagages et les paysages de toundra se présentent en hurlant dans le vent. Je cristallise. En sifflotant, toujours en sifflotant. Il faut garder cette désinvolture devant l'incertitude des jours. Il faut garder précieusement la légende du clochard céleste. Bien sûr que Blaise Cendrars, bien sûr que Travis Texas, que Mississippi, que Bamako, que les travailleurs des vignes du Sancerrois, que conquérir Paris en vendant des poèmes, bien sûr que je te remplis de livres. Soute, bus déglingué, train de nuit vers Rome, plaza de saltimbanque. Je garde un œil sur toi, tu gardes l'intime de mon histoire. Un jour, fatigué, je te présenterai à mon fiston. Tu verras, il saura te déposer sur les galets et chercher de l'or dans les torrents lui aussi, comme un héritage vagabond. Voilà, c'est une valise, c'est la valise qui appartenait à mon grand-père et c'est peut-être un des rares objets que j'ai récupéré et que j'accompagne systématiquement sur tous les salons et marchés que je fais. Et elle est très belle, elle est en parchemin, en peau de cochon. Il m'en a déjà été proposé une fortune.
Ah oui.
Mais j'aurais dit, mais non, c'est la valise de mon grand-père. Qu'est-ce que vous voulez que je vous vende la valise? J'adore Tom Waits, c'est pareil, c'est quelqu'un qui m'accompagne depuis très longtemps musicalement. Et puis, bah, dans les anecdotes, par exemple, un jour, il y a un copain qui vient là, passer quelques jours à l'atelier et, qui a traduit, il a fait une anthologie de poètes américains. Et il me dit, tu sais que les textes de Tom Waits n'ont jamais été traduits en français. Donc ça, ça date il y a 15 ans. Ben je lui dis, mais vas-y, tu le traduis. Et puis, dans cette utopie qui est toujours... Je lui dis, puis c'est simple, on fait venir un concert, et puis il fait un petit concert là, quoi. Bon. 15 ans après, ça s'est toujours pas fait, mais ça reste dans un coin. Ça fait partie des croyances, peut-être qu'un jour ça se fera. No one speaks English and everything's broken. And my stasis are soaking wet. A two-go waltzing Matilda. Waltzing Matilda, you. Go waltzing Matilda. The dogs are barking and the taxi cab's parking. A lot they can do for me. I begged you to stab me. You tore my shirt open and I'm down on my knees tonight.
Fishmills I staggered. You buried the dagger. Your silhouette window light. To go waltzing Matilda. Waltzing Matilda. You go waltzing Matilda. Streets aren't for dreaming now. Man slaughtered dragnets and the ghosts that sell memories. They want a piece of the action anyhow. Go waltzing Matilda, waltzing Matilda. Jailer and the old man in wheelchairs know that Matilda's the defendant. She killed about 100 and she follows wherever you may go. Waltzing Matilda, waltzing. It's a battered old suitcase to a hotel someplace, and a wound that will never heal. No prima donna, the perfume is on an old shirt that is stained with blood and whiskey. Night to the street sweepers, the night watchmen, flame keepers, and good night, Matilda.
La dalle a quand même été coulée par les poètes.
Hein. C'était Recto Verso, une émission réalisée avec la complicité de Léo, Laure et Anne. Avec, aux commandes musicales, à la composition et au montage, Florent Hermet. Ce voyage vous a été proposé par Vanessa Longepierre et Radio BLV.